toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
À l'avenir, chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité mondiale. La prophétie de l'artiste américain Andy Warhol date de 1968 et non seulement elle se conjugue désormais au présent, mais en plus le quart d'heure dure parfois moins longtemps. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
L'héroïne du film dont nous allons parler longuement ce samedi cherche son quart d'heure de gloire, à moins que cette quête soit celle de l'amour ou de l'émancipation. Bonjour Agathe Ridinger.
Bonjour.
Diamant Brut, votre premier long métrage, sélectionné en compétition au Festival de Cannes, sort en salle mercredi prochain. Il nous fait partager le quotidien de Liane, 19 ans, qui rêve d'être sélectionnée pour la 9e saison de Miracle Island, une émission de télé-réalité. À l'affiche de notre cinéma aussi ce samedi, nous parlerons de la sortie du film malgache Disco Africa sur l'île Rouge. Et puis nous feuilletterons le journal du cinéma avec vous, Elisabeth.
Coucou mes bébés! Grâce à l'émission, vous allez vraiment m'aimer. Je suis un soldat et cette revanche, on va la faire ensemble.
Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez?
Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans.
Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité ?
Voilà un extrait de la bande-annonce de Diamant Brut, votre premier long-métrage, Agathe Ridinger. Il faudrait décrire l'image, on a entendu le son, mais il faudrait décrire en fait l'image, la façon dont votre personnage se présente au monde avec faux diamants sur les chaussures, aux talons immenses et maquillage prononcé. Comment vous la décrivez, Liane ? C'est quoi ? C'est une poupée fabriquée ou c'est une guerrière ?
Alors moi, je la décris comme une guerrière. C'est une guerrière qui a conscience de la valeur de la beauté en général et qui utilise sa beauté pour s'imposer dans le monde, pour braquer les regards sur elle. Et donc, elle voit son corps et elle voit son image comme une armure qui lui permet de se protéger d'elle-même et de se sentir forte comme toute armure, et en même temps de vendre une meilleure image d'elle-même et donc de se sentir valorisée et de contrôler un peu ce qu'elle veut raconter au monde. Donc elle est, en effet, elle est ornée des pieds à la tête, que ce soit par le maquillage, des extensions, un corps qui a eu recours à de la chirurgie esthétique ou des vêtements qui sont très voyants. Donc c'est son armure de guerrière.
Au départ, Diamant Brut, c'était un personnage, enfin c'est une héroïne que vous avez vue sur les réseaux sociaux, sur Insta, ou c'était une idée plus générique, plus abstraite ?
C'était plutôt une idée plus générique et plus abstraite parce que je suis une grande consommatrice de télé-réalité. J'en regarde depuis que c'est arrivé en France et j'en regarde tous les jours. Donc c'est une vraie nourriture. Je me sens très proche des candidats de télé-réalité que je suis aussi sur les réseaux sociaux. Et il y avait beaucoup de questions qui me venaient en regardant ces programmes concernant la violence avec laquelle ils sont fabriqués. Et à côté de ça, une représentation de la femme, des corps féminins qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui pose question sur le rapport dominant-dominé à travers la beauté, sur ces corps que moi je trouve très puissants, incarnés à travers le personnage de Liane et explorer les raisons de cette jeune femme, pourquoi elle veut faire de la télé-réalité, pourquoi elle veut être belle, comment elle pense être belle, quel est son rapport à l'idolâtrie, à l'adoration, à la beauté, à l'amour et aux réseaux sociaux, donc au regard de l'autre. Fin.
Et ça, c'était votre parcours intérieur dans un premier temps ? Parce que j'imagine qu'on peut regarder beaucoup de télé-réalité, on ne devine jamais vraiment les raisons profondes, en fait. Donc c'était un travail plus intérieur ou c'était plus une démarche d'aller rencontrer certaines de ces héroïnes de télé-réalité. Est-ce qu'il y avait beaucoup de documentation ?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de documentation parce que déjà, le fait d'en regarder énormément et donc de regarder aussi tous les programmes satellites, toutes les pastilles de vidéos, de tous les moments de promotion aussi qu'ils font pour leurs émissions, de suivre leur vie sur les réseaux sociaux, il y a déjà une intimité qui se crée, qui est très proche, bien sûr contrôlées par eux, mais il y a quand même des choses qui transpirent et qu'on peut connaître et apprendre assez facilement. Après, il y a un travail aussi de projection que j'ai fait sur tout le rapport à l'amour et aux raisons qui peut-être plus inconsciente des candidats. Ce qui est certain, c'est que c'est un vrai travail aussi, c'est un vrai moyen de gagner de l'argent, et c'est des choses qui sont tout à fait revendiquées de manière très ouverte par les candidats qui voient ça comme un plan de carrière. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'échanges avec des candidats aussi télé-réalité pour écrire le scénario, même si c'était des échanges assez succincts à cause de la méfiance qu'ils ressentent vis-à-vis des gens qui extérieurs à ce milieu qui s'intéressent à eux. Ce sont des personnes sur lesquelles on a tellement tapé, qu'on a tellement dénigré, que quand on s'approche avec un sujet qui veut un peu intellectualiser tout ça, il y a beaucoup de méfiance, c'est ce que je comprends parfaitement.
Mais quand vous dites, Agathe Ridinger, que vous sentez proche, vous sentez proche de ces candidats, c'est à quel titre? Vous n'avez pas cherché forcément à prendre la lumière?
Ah, pas du tout. Je me sens proche. Ce sont des programmes qui sont destinés, comme toute bonne série, à ce qu'il y ait une forte identification aux candidats. Je me sens proche d'eux parce que j'ai la sensation d'avoir grandi avec eux et que du coup, j'ai envie d'interagir avec eux. Ils s'adressent, leur vie entière est tournée vers leur communauté. Donc, c'est violent et beau à la fois, forcément.
Agathe Ridinger, la célébrité numérique, alors planche de salut ou miroir aux alouettes, on va continuer évidemment à en parler. Mais à ce stade, je vous propose un pas de côté à Madagascar, où vient de sortir un premier long métrage, Disco Africa, une histoire malgache, du réalisateur Luc Razanadzone. Il plonge le public dans un Madagascar aussi contemporain qu'intemporel. Le film entraîne en effet le spectateur à Tamatave, la première ville portuaire du pays, sur les pas d'un jeune malgache en quête de son passé, dans une société où la loi du plus influent domine. Un récit rythmé par les manifestations sociales en pleine crise post-électorale et par les questionnements existentiels d'un jeune homme livré à lui-même. Reportage à Madagascar, signé Sarah Teto.
C'est l'histoire de Kwame, 20 ans, qui travaille dans une mine clandestine de saphir. Une nuit, la recherche de la pierre précieuse vire au drame et le jeune homme est contraint de rentrer chez lui à Tamatave. Démarre alors une nouvelle vie faite de tiraillements entre argent facile et droiture, entre individualisme et éveil à une conscience politique. Luc Razanadzone est le réalisateur du film.
On arrive dans un contexte où chaque personne doit se poser la question: est-ce que moi, je peux apporter quelque chose à cette nation? Et comment je vais faire pour que je prenne possession de mon destin? Parce que je pense qu'actuellement, beaucoup de jeunes ne se posent pas cette question et je voulais le remettre un peu sur la table.
Le scénario est porté par un jeu d'acteurs d'une incroyable justesse. Au casting, uniquement des noms professionnels. À commencer par Paris Tassambo, qui tient le rôle principal et joue le jeune Kwame. Au moment de passer l'audition, 2022, il est alors chauffeur de cyclopousse.
Je n'avais aucune idée de ce qu'est un casting, mais j'étais curieux. J'ai eu envie d'essayer. J'avais très peu de temps parce que je cherchais de l'argent pour survivre. J'ai passé l'audition un dimanche, c'était le dernier jour du casting. L'équipe m'a sélectionné, mais je n'avais pas de téléphone. En ville, j'étais sur mon pouce quand quelqu'un m'a interpellé. « Parista, tu es recherché !» qu'il m'a dit. J'ai pris peur, j'ai cru qu'on m'avait accusé de vol.
Il s'est enfui et tout ça. Ça nous a pris 3 semaines, 4 semaines pour le rechercher dans la ville. Il y avait Facebook, la radio, l'annonce et tout ça. Ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, on l'a retrouvé.
Pour aider les acteurs débutants, un coach les encadre et les fait répéter. Mais très vite, Pariste s'identifie au personnage qu'il doit jouer.
Kwame et moi, on se ressemble beaucoup. Comme lui, j'ai été conducteur de cyclopousse, docker, porteur. Tout ça, je l'ai vécu. J'ai aussi vécu cette situation où si tu es victime d'injustice, mais que tu n'as pas de pouvoir, tu te fais écraser. Dans le sud d'où je viens, ma famille s'est fait voler tous nos ébus. Nous avons porté plainte, mais comme les bandits étaient influents, ils ont pu corrompre les autorités et on s'est retrouvés sans rien.
Sans pathos ni misérabilisme, Disco Africa, une histoire malgache, dépeint donc les inégalités sociales, le règne de l'argent, des trafics et de la corruption, les violences policières aussi, et la répression, le tout dans un état d'esprit contestataire des années 70. «
Pour moi, Kwame, c'est quelqu'un qui peut apporter ce vent de changement. Il représente la jeunesse de notre île. Il représente notre génération qui est laissée pour compte, celle d'en bas, celle qu'on ne voit pas.
Le long métrage a déjà remporté 5 prix internationaux, dont celui de l'interprétation masculine au Festival des cinémas africains de Tarifa. Il a été projeté toute la semaine sur les écrans de la capitale et a conquis le public. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Enchantée Julia, Erkazaman, une nouveauté de la playlist de RFI et c'est aussi le choix de notre réalisatrice Apolline Verlon.
Entre tes airs et montée des eaux, la terre brûle mais l'enfer c'est les autres. Je fais le saut de l'ange, Dieu de la scène, je saute. Scène et sauve-moi, je m'en sors, scène et sauve. Billet bleu ouvert, sur pied ouvert.
Bien sûr, RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie d'Agathe Ridinger pour parler du film Diamant Brut qui sort en salle dans quelques jours.
T'as refait des choses aussi naturelles ?
Les seins l'année dernière.
Pas les dents ?
Non. Et il y a une copine qui m'a fait l'acide hyaluronique aux lèvres, mais c'est presque parti déjà.
Ok, tu peux te présenter pour la caméra, ton nom complet, ton âge, ton emploi ?
Je m'appelle Liane Pougy. J'ai 19 ans, j'ai fait un peu serveuse, et voilà, c'est avec ça que j'ai payé mes seins.
Ok. T'es libre en ce moment ?
Oui, je m'occupe pas mal de ma sœur. Et...
Tes parents travaillent beaucoup ? Non, je te dis ça parce que c'est un vrai engagement. Hein. Faut mesurer que le tournage dure 2 mois, après il y a beaucoup de promos, il y a d'autres tournages.
C'est bon.
Ok, bon, je t'ai vue sur les réseaux, j'adore, hein, tes danses, tout. T'as déjà fait des concours de beauté ? Mais t'aimes plaire, ça se voit.
Tout le monde aime plaire.
Hmm. Tu dois avoir beaucoup de conquêtes. Je sais pas, si tu devais me donner un chiffre là comme ça, ce serait quoi, à peu près ? T'es du genre fidèle ? C'est un truc que tu fais facilement ou pas ? Bon, et va pas falloir jouer la sainte nitouche, hein ? Bon, sinon, tu te drogues pas, t'es pas enceinte ?
Non.
De toute façon, si t'es retenue, hein, t'auras plusieurs prises de sang à faire pour vérifier tout ça. Tu peux me raconter un peu tes valeurs, ce que tu défends dans la vie, comment tu vois les choses ?
Alors moi, je respecte les gens qui disent la vérité, qui font des vrais trucs. Et je déteste les gens qui font les victimes, qui n'assument rien.
Mmh. Tu te mets souvent en colère. La colère, c'est ce qui fait avancer le monde, tu sais. Hein ? C'est hyper bien que t'aies du caractère. Voilà, nous on cherche des filles qui se laissent pas faire, qui n'ont pas peur de dire les choses... En revanche, les candidats qui ont un casier judiciaire, ça, on prend pas. T'es comment là-dessus ?
Ça va, je vais être sage.
Pas trop quand même. Hein.
Voilà, Gatry Dinger, Liane passe donc le casting pour être sélectionnée dans la saison 9 de Miracle Island, une émission de télé-réalité évidemment fictive que vous avez inventée, mais qui pourrait exister. On pense à différentes émissions existantes. Il y a, donc on lui pose des questions. Il faut préciser que la directrice de la casting, on ne la voit pas.
Non, elle est hors champ.
Elle est hors champ. C'est comme les codes en fait, des émissions de télé-réalité où il y a le confessionnal, par exemple.
Alors, il y a un peu de ça, mais surtout, ce que je voulais faire, moi, c'est tout ce qui abordait vraiment le cœur de la télé-réalité dans le film, que ce soit les émissions qu'elle regarde ou la directrice de casting. Je voulais qu'on voit ça à travers le regard de Liane. Et que dans la mesure où on sait tous, peu ou prou, à quoi ressemble un candidat de télé-réalité, une émission de télé-réalité, un feed de candidat de télé-réalité, je ne voulais pas rabaisser ça à une représentation qui, du coup, aurait rendu ça très basique, très réel, très trivial. Là où Liane, elle y voit quelque chose d'immense, de quasi mystique. Et c'est clairement la raison pour laquelle tout est joué au son. En ce qui concerne la télé-réalité, tout ce qui se rapproche de ça est uniquement joué au son. Ça donne plus de mystère, il y a plus de place, il y a plus de puissance. Et concernant la scène du casting à proprement parler, il y avait aussi la volonté de créer vraiment un rapport avec le spectateur, que Liane s'adresse au spectateur comme elle est en regard caméra, elle regarde vraiment les spectateurs, et donc de jouer sur quelque chose d'un peu plus monstrueux, d'un peu plus cruel. Dans la vulnérabilité de Liane, qui est en sous-vêtements, en maillot de bain, enfin en très peu habillée, comme il est souvent d'usage pour les castings de ce genre.
Et tout se joue dans les silences, en fait, dans cette scène.
Ben, tout se joue dans les silences et surtout dans l'humilité avec laquelle Liane arrive. C'était vraiment le mot d'ordre que sur le plateau de tournage avec Malou. Elle est devant une femme qui va la mettre au monde et qui est une mère symbolique. Et donc, du coup, elle représente tout ce que sa mère n'est pas, ne lui apporte pas. Donc, il y a une gratitude immense que Malou devait jouer dans le regard et dans la volonté d'être désirée, et qui est identique dans n'importe quel casting. Il y a toujours ce rapport de personne qui désire et de personne qui est désirée. Donc, il y a toujours un rapport de domination qui est très cruel et qui installe vraiment quelque chose vraiment de l'ordre de la gratitude, de la reconnaissance et de « je t'en supplie, aime-moi ». C'était vraiment ça que Malou devait jouer intérieurement. C'est « je t'en supplie, choisis-moi, je t'en supplie, reconnais-moi, valide-moi ». Il y avait et donc, du coup, par les silences, bien sûr, qui permettaient pour ce personnage qui est très vindicatif, qui est très verbal, qui est très physique.
Voilà, c'est ça, pour que les auditeurs comprennent. Elle n'est pas du tout comme ça dans les autres scènes du film. Comme disait Sophie, c'est une guerrière. Hein. Elle a le verbe haut et elle ne se laisse pas faire.
Exactement. Et donc là, il fallait montrer une petite chose. Jouer une Liane qui est une petite chose fragile et qui veut se faire adopter, quoi, d'une certaine façon.
Vous parliez de mystique, Agathe Ridinger. Il y a cette voix off, ça pourrait être presque la voix qui appelle, hein, un saint, par
Tout
exemple.
Fait.
En fait, Liane, c'est presque une Jeanne d'Arc. Il y a un côté, parce qu'elle prie aussi.
Il y a un côté croisade, clairement. Ça, c'est un motif qui est très présent dans le film. Enfin, le motif religieux est très présent dans le film pour plein de raisons. Déjà, parce que c'est un personnage qui a un rêve et qui croit en son rêve. Donc, elle s'élève déjà de par ce rêve et la volonté de réaliser ce rêve. Il y a déjà une idée d'élévation. Ensuite, elle s'inscrit vraiment dans une quête de perfection physique pour pouvoir devenir... elle se dit vraiment, si je suis parfaite physiquement, on va me regarder, on va m'adorer. Enfin, c'est le simple rapport d'adoration, il est là-dedans. Donc, il y a aussi une image, enfin, il y a l'image de l'icône là-dedans. Et par ailleurs, la religion lui amène aussi quelque chose de fragile, quelque chose de vulnérable, puisqu'elle ne peut plus que s'en remettre à Dieu pour tenir debout et défier les gens qui ne croient pas en elle. Donc, il y a aussi, c'est aussi pour cette raison-là. Et enfin, d'un point de vue beaucoup un peu plus d'analyse par rapport à la télé-réalité, j'ai le sentiment qu'elle est très très présente dans la télé-réalité, elle est très présente dans la bouche des candidats de télé-réalité qui invoquent Dieu beaucoup, qui invoquent tous les dieux, toutes les religions. Il n'y a aucune différence qui est faite et c'est important de le souligner. Et Dieu est comme un étendard en fait, est vraiment comme un bouclier. Et moi, j'entends ça un peu comme un aveu de fragilité, d'estime de soi et de légitimité gigantesque. Et c'est vraiment une béquille, quoi. La religion est une vraie béquille dans la bouche des candidats. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je voulais insuffler ce souffle mystique dans le film.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous parliez d'icône tout à l'heure. Le paradoxe, en fait, c'est qu'elle fait tout pour qu'on la voie, pour être la cible parler de Jeanne d'Arc, hein, pour être la cible de tous les regards, mais il ne faut pas qu'on la touche.
Oui, comme une sainte vierge, comme une icône, effectivement, elle a un rapport aussi très déconnecté à ses sens, finalement. Il n'y a que le sens du toucher, son rapport au corps est très particulier, elle est enfermée derrière son image.
Comment on fait passer autant d'idées, de sensations, d'affects avec une toute jeune actrice?
En la choisissant bien.
Donc elle s'appelle Malou Kebizi.
Malou Kebizi. En ayant conscience que le rôle est vraiment pas simple et au moment du casting, le défi, dans la mesure où moi j'avais envie de travailler avec une comédienne qui n'ait jamais joué, il fallait trouver une jeune femme qui ait l'âge de Liane, des points communs avec le personnage, mais qui ait aussi un recul émotionnel et intellectuel assez conséquent pour qu'elle comprenne absolument tous les enjeux, les thèmes, les sous-thèmes, qu'elle ne se fasse pas abîmer par le personnage, qu'elle ne se fasse pas abîmer par ce que le film raconte, ce que le film dénonce, et aussi qu'elle puisse encaisser l'épreuve physique d'un tournage, parce que c'était vraiment un tournage de toute façon est très physique, et là elle est vraiment de tous les plans, et c'est un personnage qui est vraiment un corps, quoi. Donc là, on a rencontré Malou assez tôt, mais moi j'ai pris plusieurs mois avant de lui proposer d'être Liane pour avoir le temps de la revoir, de lui faire des callbacks et donc de m'assurer qu'elle avait justement cette maturité et cette compréhension du personnage et des enjeux du film. On a eu énormément de discussions avec Malou, mot après mot, ligne après ligne, pour détricoter vraiment tout le film et tout le texte invisible du film. Et un gros travail sur le corps aussi, c'était assez réjouissant finalement de Malou. Je lui disais qu'il fallait qu'elle gomme en fait tous les petits gestes inconscients de séduction que les femmes ont énormément, comme croiser les jambes, toucher les cheveux, pencher un peu la tête, etc., qui sont des, pour faire un personnage qui n'est pas dans la séduction mais qui est dans le plaire. Et il y avait aussi quelque chose de très libérateur pour Malou et pour l'équipe et pour moi d'aller chercher de l'imperfection. Et je pense que c'est toutes ces petites choses très libératrices et très réjouissantes qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de joie pendant le tournage, énormément de bienveillance, énormément de confiance, et qui fait que Malou, elle s'est donnée corps et âme à Liane, et on s'est vraiment donné la main pour plonger dans ce projet. Donc c'était...
Elle avait quel âge au moment du tournage?
Elle avait 20 ans. Et c'est une guerrière comme Liane. Elle a des points communs de détermination, de sens de la justice comme Liane. Elle les partage... Donc elle a une très très grande compréhension du personnage, bien qu'elle ait aussi beaucoup de différences avec elle. Elles n'ont pas du tout les mêmes goûts. Donc ça, c'était une petite bataille par moment de dire à Malou, ça c'est les choix de Liane, c'est pas les tiens. Liane, elle veut mettre ses extensions comme ça et se faire des sourcils comme ça. J'entends que toi, tu n'aimes pas, mais Liane, elle aime ça. Et je vais t'expliquer pourquoi les sourcils ont cette épaisseur. Il y a quelque chose derrière, c'est pas une coquetterie, c'est les cornes de Liane. Il y avait tout un bestiaire en fait autour du personnage, entre les cornes, qui étaient, ça c'est des trucs de subtilité, qui étaient selon les scènes anguleuses ou fondues à l'extrémité des sourcils, donc c'est-à-dire la précision avec laquelle on allait pour fabriquer le personnage. Il y avait le taureau, donc dans sa manière de marcher, il y avait le bélier dans sa manière de gonfler ses épaules, donc il y avait tout un imaginaire autour des animaux comme ça qui nous aidait aussi à fabriquer ce personnage qui a un caractère inverse à son physique.
Dans la vie, il y a que les beaux qui réussissent. Bah pardon, mais si t'es beau, on t'admire. Si on t'admire, tu es puissant. Si tu es puissant, on te paye cher pour t'avoir. Depuis qu'elle a refait son cul et ses pommettes, ça a tout changé pour elle.
Non mais l'autre, sérieux, la prod, c'est des fous de l'obliger à faire la teubée comme ça.
La boisson café, elle est en levrette, la meuf. On voit toute sa tâche, là.
Rigole, toi aussi, on voit toute ta tâche. Tu te fais qu'à dès que tu peux.
Oh, mais moi, je me fais pas filmer.
C'est une déesse, y'a tout le monde qui est à ses pieds.
Ah ouais, ok, c'est un missile. Par contre, regarde sur les réseaux, elle se fait terminer à H24.
Y'a plus de mauvais buzz aujourd'hui.
Allez, genre, ça te ferait rien.
Mais qui me traite? Tant qu'il parle de moi, c'est qu'il m'aime.
T'es malade, franchement.
Voilà, Liane n'est donc pas coupée du monde, hein, Agathe Ridinger. Elle a des amis qui lui ressemblent. Avec qui elle peut traîner, aller dans les magasins, choisir des robes, aller au salon. Et là, dans cet échange, on sent que rien que d'avoir passé le casting, rien que cette étape-là, et déjà, en fait, c'est comme si sa cote s'était bonifiée.
Tout à fait.
D'échelle sociale.
Elle est dans l'histoire, elle poste une story du casting, donc forcément, comme c'est une fine connaisseuse des règles des réseaux sociaux et qu'on ne lui fait pas, elle sait utiliser les algorithmes et taguer les bonnes choses, mettre les bons hashtags. Et donc, du coup, sa cote augmente. Et ça, elle sait comment ça marche.
Comment vous avez écrit les dialogues? Déjà, est-ce qu'ils sont très écrits? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une libre place pour l'improvisation avec ces actrices ?
Ils étaient très écrits. J'étais un peu embêtante avec ça, avec les comédiens. J'avais vraiment à cœur que les dialogues soient respectés pour leur musicalité ou pour les chants lexicaux qui étaient très spécifiques. J'étais un peu casse-pied par rapport à ça. Et après, pour écrire les dialogues, il y a beaucoup de choses qui sont piochées à l'intérieur même des émissions. Il y a une manière de parler, un phrasé particulier qui est très imagé, que je trouve vraiment hyper réjouissant pour les oreilles, quoi, qui m'a servi d'inspiration pour écrire ces dialogues-là.
Donc là, vous choisissez des actrices non professionnelles, mais pour le rôle de la mère, puisque Liane, elle a une mère qui est jouée par Andrea Bescon. Donc là, vous avez choisi une actrice, pour le coup, oui. Professionnelle. Alors une mère... comment est-ce qu'on peut dire dysfonctionnel,
démissionnaire. Tout voilà. À fait, oui, c'était important. Pour moi, j'avais envie que la mère soit incarnée par Andrea pour ce qu'elle représente. Déjà parce qu'elle c'est une fabuleuse actrice et aussi pour sa parole politique. J'espérais qu'elle soit intéressée à l'idée d'incarner une femme violente.
Et... oui, parce qu'elle, elle a dénoncé notamment dans sa pièce de théâtre et son film Les Chatouilles, le viol dont elle a été victime enfant, oui. Sur de longues années.
Et elle est une grande militante contre le patriarcat. Donc c'était d'autant plus intéressant qu'elle s'empare aussi de la violence d'une mère à son enfant et qu'elle aborde donc du coup toutes sortes de violences. Et c'est précisément ce qui l'a intéressée aussi dans le projet... de montrer comment la violence se transmet et que ce n'est pas l'affaire que des hommes, bien sûr, et qu'ils sont elles-mêmes victimes de
quelque
chose.
Voilà, les mères aussi, voilà. Et qu'effectivement, il y a un manque manifeste d'amour dans la vie de Liane.
C'est vraiment le point de départ de ce qu'elle est et la raison pour laquelle elle veut faire une télé-réalité, finalement. C'est elle souffre d'un abandon de la part de sa mère. Elle souffre du regard originel qui fait qu'on se sent reconnu, vivant, valable, digne, etc. Donc c'est ce regard-là qui lui manque et qu'elle va chercher en voulant braquer le plus de regards possible et donc en s'exposant par une télé-réalité et sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, elle compense. C'est pour ça que la directrice de casting, c'est vraiment la mère symbolique de Liane pour moi.
Et le fait de participer à cette émission de télé-réalité, enfin déjà d'être retenue, parce que tout le film, en fait, je ne dis pas que c'est un thriller, mais on va attendre, on va attendre jusqu'à la fin la réponse. Et c'est donc ce moment là qui la suit entre sa sélection et donc la réponse que l'on va voir. Donc le fait de participer à cette émission, c'est aussi sa planche de salut aussi financière. On sent que c'est une possibilité.
Bien sûr, la télé-réalité, c'est une vraie alternative au chômage. C'est un vrai métier. C'est une tribune pour se faire entendre, se faire voir quand on est très souvent méprisé du fait d'origine sociale plus modeste et populaire. Donc c'est un moyen de gagner de l'argent et un moyen d'en gagner vite. C'est un moyen de réussir selon les codes capitalistes de nos sociétés. Donc c'est un métier comme un autre, clairement.
Alors la télé-réalité existe en France depuis 2001, depuis l'arrivée du Loft sur la chaîne M6 et... hasard du calendrier, alors que votre film Diamant Brut sort sur les écrans, et bien une série télévisée disponible sur la plateforme Amazon Prime retrace ce changement de paradigme. La série s'intitule Culte.
Cette émission, elle raconte la vie des gens, leur quotidien. C'est ça la magie de ce concept.
Ça cartonne aux Pays-Bas.
Ils appellent ça...
télé-réalité.
Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras.
Aujourd'hui, tout le monde a une webcam, tout le monde veut montrer l'intérieur de sa chambre.
Moi, je veux pas une webcam, moi.
Non, mais toi, si tu veux, tu comptes encore en ancien franc, donc personne n'a envie de voir l'intérieur de ta chambre.
Ça va être un carton, j'en suis sûr.
On va avoir besoin de bras, là.
J'appelle qui ?
Tout le monde. Toutes les couleurs d'arc-en-ciel, tous les âges, tous les territoires. Le casting, c'est la France. Allez !
Moi, quand je vais voir les castings vidéo, il faut que j'ai... un coup de chance.
Voilà, la bande annonce de la série Culte qui revient sur comment le Loft est arrivé en France, donc sur M6, Agathe Ridinger. Il y avait la figure de Loana, on l'entend, machine de guerre, elle s'est fait broyer.
Oui, c'est un système qui broie aussi beaucoup les individus, en effet.
C'est ça. Et je ne sais pas si vous avez vu la série.
J'ai pas le temps, malheureusement. Mais...
parce que vous êtes en tournée, évidemment, en province et dans le monde avec votre film Diamant Brut. Mais effectivement, donc, la télé-réalité, planche de salut, mais aussi machine à broyer.
Exactement. Et le film raconte ça. Moi, je voulais me placer du côté de la candidate pour explorer les raisons qui font qu'on a envie d'en faire. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi de dénoncer aussi ce système qui va exploiter une fragilité affective et très souvent, il y a des blessures familiales très fortes dans la vie des candidats, mais aussi une blessure sociale très forte du fait que ce sont des gens qui ont un parcours scolaire qui n'est pas évident et qui n'ont pas forcément accès aux études, à l'emploi, et donc qui sont issus de milieux sociaux plus pauvres. Et donc, c'est la raison. Ils savent très bien qu'en allant chercher des candidats qui ont ce profil, ils vont trouver de bons candidats parce que c'est des candidats à qui on, tout à coup, on va donner leur chance et qui seront prêts à tout pour se faire une place. Donc, c'est un système qui va exploiter une certaine forme de misère. C'est le mot est fort, mais c'est réaliste.
Est-ce qu'il y a eu des évolutions là ? Le LOLF, ça a plus de 20 ans, hein, enfin 23 ans maintenant. Est-ce qu'en 23 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé ou c'est un peu les...
Beaucoup.
Ouais.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le sel des émissions n'a pas changé. On est toujours sur du divertissement qui se base sur le clash, les histoires d'amour, histoires de sexe. Ouais. Donc les ingrédients qui sont les mêmes depuis la nuit des temps pour créer du divertissement. Donc on est toujours sur l'exploitation du corps des femmes pour créer du divertissement. On est toujours sur du harcèlement, sur de la culture du viol. On est toujours sur les mêmes ingrédients qui font que ces choses-là, malheureusement, doivent être mises en question. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'entre l'époque du loft et aujourd'hui, c'est devenu un métier pour les candidats. C'est devenu, les salaires ont été revus à la hausse afin que les gens soient correctement rémunérés pour ce travail. Le regard qu'on pose sur la télé-réalité a changé aussi. Moi, sur l'espace de 7 ans, entre le moment où j'ai eu l'idée de ce film et le moment où on a voulu le financer, j'ai vu déjà sur cette échelle-là déjà une évolution des mentalités très importante. Déjà, quand je regardais de la télé-réalité il y a 7 ans, on me regardait de travers et on me faisait comprendre que j'étais très superficielle. Donc je me prenais une petite salve de mépris. Ensuite, quand j'ai dit que je voulais travailler autour de la télé-réalité, en faire un film de cinéma, on m'a regardée en mode « t'es pas sérieuse, on va pas anoblir par le cinéma de la télé poubelle ».
Donc ça, c'était l'œil des financeurs, ça,
c'était,
en fait.
Non, parce qu'à l'époque, c'était pas encore soumis. C'était l'œil des gens, de l'entourage professionnel, de l'entourage familial et amical aussi. C'était une drôle d'idée, quoi. Et puis après, il y a eu MeToo, qui a fait exploser des milliers de choses. Il y a eu la sortie du livre de Delphine Duvigan, « Les enfants sont rois », qui m'a permis de mettre un pied dans la porte et de bénéficier de la lumière qu'elle a sur le sujet et d'une lumière intelligente sur le sujet. Et puis il y a beaucoup de candidates et de candidats qui ont pris la parole pour dénoncer ce système aussi. Je pense qu'on a eu aussi les gens ont un peu regardé un peu différemment des émissions de divertissement type Touche pas mon poste. On a pu constater des scènes de harcèlement et des scènes franchement délicates d'un point de vue moral. Donc il y a aussi une prise de conscience par rapport à la violence de ces programmes qui a fait qu'au moment où le scénario était terminé d'être écrit, les gens étaient prêts à parler de ce sujet. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'étais si heureuse et si fière d'amener le film à Cannes, de me dire il y a énormément de lumière tout à coup sur ce projet. Ça veut dire que ça y est, enfin, on se met vraiment à table. Et d'ailleurs, d'un point de vue calendrier, vous parliez de culte tout à l'heure, mais il y a aussi le livre de Constance Villanova, « Vivre pour la caméra » qui est sorti cette année. Il y a une magnifique BD graphique de Stella Laurie et Tilila Relmani qui s'appelle « Éloge de la surface » qui aborde aussi ce sujet-là. Et on a toutes le même point de vue sur la télé-réalité sans s'être concertées avant, sans se connaître avant. Et donc, c'est comme si l'année 2024, tout à coup, avait levé le voile sur un sujet pris à bras-le-corps par des femmes, mais n'empêche pris à bras-le-corps. Donc, il y a vraiment une histoire de calendrier. C'est très cosmique, c'est très étrange. Ouais. Mais c'est génial, tant mieux. Enfin.
Et justement, comment on filme la surface ? C'est ça, des questions que vous vous êtes posées, j'imagine, en termes d'éclairage, de cadrage et décor.
Oui, il y avait un enjeu très, très fort sur il fallait faire tout sauf de l'image dite sexy. Misérabiliste, voyeuriste, il y avait énormément de pièges, énormément d'écueils dans lesquels il fallait surtout pas tomber. Donc déjà, je pense en ayant vraiment conscience de ces pièges-là. Après, je pense que ce qui était intéressant, c'était de raconter la vulnérabilité, la fragilité, le côté très authentique d'un personnage qui va être, dès les premières secondes, étiqueté comme superficiel et de montrer comment cette superficialité, justement, elle est tout sauf superficielle et qu'elle n'est qu'authenticité. Puis il y avait le travail du vêtement aussi, évidemment, d'aller chercher justement l'imperfection. Donc ça allait de un petit bourrelet qui dépasse, une étiquette de jean qui va dépasser et que Liane aura oublié de découper, de montrer que le corps souffre, de montrer les rougeurs du corps, comme il est corseté, comme il étouffe, de montrer que la peau, elle étouffe aussi sous le maquillage. Et donc, à l'étalonnage, il y avait vraiment ce travail de faire ressortir le grain de peau, ressortir les imperfections du corps. Il y avait le travail des cheveux, c'était aussi au début du tournage, on faisait particulièrement attention au début du tournage de mal coiffer, de bien mal coiffer, ce qui n'était pas simple en fait, parce qu'il a fallu vraiment tout détricoter pour aller chercher le geste en fait. C'était vraiment le geste moi qui m'intéressait plutôt que le résultat, parce que c'est dans le geste qu'on va voir ce que veut le personnage, et ce qu'il veut c'est être aimé, donc c'est quelque chose qui est très, très authentique quoi.
Coucou mes bébés, regardez ce que j'ai fait, je suis devenue Liane de Pougy. Voilà, donc je l'ai fait toute seule, alors dites-moi vite ce que vous en pensez. Donc le premier qui commente, bah je le follow back direct. Et voilà, je voulais juste vous dire que je vous aimais super fort et j'espère que vous aussi, parce que je suis vraiment une fille bien. Et en tout cas, bah j'ai vraiment trop hâte. Et je le mérite tellement, mes cœurs. Grâce à l'émission, vous allez vraiment m'aimer. Je marche avec le Seigneur, je suis un soldat et cette revanche, on va la faire ensemble. Je fais plein plein de gros bisous et... plein de bisous étoilés, comme mon tatouage.
Là, Liane s'adresse à sa communauté. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle vient de se tatouer elle-même. Alors, ce qu'a montré le film, mais ce que ne voient pas ses followers, c'est qu'elle a quand même mis son corps à l'épreuve, souffert. C'est presque sulpicien, enfin, comme on dit, de l'imagerie du 19e siècle, où on voit des saints souffrir.
Complètement. Ouais. Mais tout simplement, Liane, elle répond à l'adage de « il faut souffrir pour être belle », qu'on entend encore tous les jours. Donc, il y a vraiment, moi, j'avais envie de montrer la réalité de cette phrase, quoi, qui est la réalité de millions de femmes et dans la mesure où c'est un personnage qui s'est déconnecté vraiment de son corps aussi, elle s'est... Vous le disiez tout à l'heure, elle s'est aussi déconnectée de la douleur. Donc il y a quelque chose qui est vraiment qui est de l'ordre du supplice et
pour atteindre la sainteté,
atteindre une forme de perfection et une forme de surpuissance sur le corps. Donc c'est donc effectivement avec cette idée de surpuissance, de sainteté, bien sûr, mais surtout de manière très basique, il faut souffrir pour être belle.
Mais là, on l'entend bien dans cette scène parce qu'elle a une voix très très particulière, oui. Et elle est ailleurs.
Elle est shootée. On l'appelait ça la scène de shoot.
Comment on fait pour tourner une scène comme ça?
On a vachement rigolé.
Du calme total à ça.
On a beaucoup ri parce qu'en fait, comme il y avait dans le décor, il y a deux miroirs qui se font face. Enfin, on avait fabriqué un décor qui consistait à ce qui est vraiment deux miroirs et que Liane tournait, Malou tournait beaucoup. Le chef opérateur devait aussi tourner beaucoup, donc il était systématiquement attrapé par les miroirs. Donc il s'était enroulé dans un tissu bleu. Donc, il avait une dégaine pas possible.
Et pour qu'on puisse l'effacer après. Pour qu'on puisse après
l'effacer. Et l'effacer, oui et non, parce que c'est des frais assez conséquents. Mais en tout cas, au mieux s'arranger si jamais on l'attrapait, etc. Donc déjà, on a beaucoup rigolé là-dessus. En revanche, ce qui n'était pas simple, elle est très physique cette scène. Parce qu'il fallait donner la sensation que Liane a filmé plusieurs fois sa story. Qu'elle est épuisée d'avoir filmé plusieurs fois cette story. Que l'information vient de partout, qu'elle n'a plus de souffle. Et donc, il fallait... C'était assez chorégraphié.
Et qu'elle a très mal aussi.
Qu'elle a mal, bien sûr. Et c'était très chorégraphié. Mais le plus difficile, c'était de la refaire en post-synchronisation. Parce qu'en plus, entre-temps, j'avais changé quelques dialogues. Donc, c'était réécrit. Donc, il fallait coller au labial parfaitement. Donc, ça, c'était des trucs un peu plus délicats. Mais il y avait un temps imparti, ce que j'avais bourré vraiment beaucoup le texte pour montrer qu'elle est affamée, assoiffée, qu'elle vomit un cri d'amour, quoi, en gros. Et donc, il y avait plein de textes qui n'étaient pas prévus. Et là, il y avait une petite prouesse d'articulation quand même à faire pour Malou qui était costaud, quoi.
Agathe Ridinger, je le disais, Diamant Brut est votre premier long-métrage d'emblée en compétition à Cannes. Vous l'avez dit, c'était une formidable exposition. C'était pas trop violent, quand même, pour un premier long, d'être tout de suite en compétition.
C'était très violent, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. La compétition, c'était quelque chose qu'on avait littéralement mis de côté... Et puis moi, j'avais mis de côté, sitôt le film envoyé à Cannes pour être étudié, moi j'avais dit à ma productrice et à l'équipe de production, je ne me parlez pas de Cannes, en fait, vous codez le mot si vous voulez, mais je veux rien savoir, je veux pas savoir où on en est, je veux rien savoir, je veux que ça reste le plus loin de moi, tellement on sent que quand même c'est très très important Cannes dans la carrière des gens de l'industrie du cinéma. Donc il y avait vraiment une pression déjà du fait d'attendre qui est strictement la même que Liane. C'était absolument la même. Donc pour que connaître bien la pression de Liane, je me vois pas capable d'encaisser la même chose et pourtant je vais bien devoir le faire. Donc il y avait une pression de... Ouais, c'était brutal. Et puis, on voit bien qu'il se passe quelque chose aussi d'une seconde à l'autre. Il y a le téléphone sonne, il y a des notifications qui explosent de partout. On me parle de plein de choses dont j'avais jamais eu idée, puisque 3 semaines avant, j'étais encore dans un travail très artisanal d'horlogerie avec... au mixage, par exemple. Donc, il y avait tout à coup, enfin, le jeu change littéralement. Donc, c'est hyper beau et c'est hyper brutal. Puis tout le monde me dit, ça n'arrive jamais, c'est très rare. Donc, à force d'entendre ça, ça fout la pression, quoi.
Mais du coup, ça donne une exposition évidemment internationale. Là, vous revenez de Los Angeles, vous avez présenté le film, vous revenez aussi de Corée du Sud. Vous êtes présenté
oui, le film a un très beau parcours en festival à l'étranger. En effet, il y a plein de. Il était récemment aussi au Canada, il était à Stockholm, là très récemment, à Ankara, il est en Indonésie très prochainement aussi. Donc il est.
Et la réception du film, elle est un peu la même partout ou il y a quand même des différences.
Alors de ce que je constate, c'est qu'elle est un peu la même partout. Après, l'approche dans le retour du public est pas tout à fait la même. Les regards sont plus ou moins incisifs et plus elle est un peu la même partout, ouais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Agathe Ridinger. Je rappelle que Diamant Brut sort en salle en France mercredi prochain. On voit avec vous, Elisabeth, ce qui fait l'actualité du 7e art, juste après Clara Luciani. Et d'ailleurs, hasard ou coïncidence, Clara Luciani est cette année marraine de la Star Academy. Alors, Clara Luciani vient de sortir un nouvel album. On écoute Tout pour moi.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre, si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts, je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
C'est le moment du journal du cinéma avec vous, Elisabeth. On va parler d'une série qu'on connaît bien, c'est le Bureau des légendes. 5 saisons pour suivre les aventures d'agents français conduits par Mathieu Kassovitz, donc des agents qui travaillent sous fausse identité.
Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Bienvenue au Bureau des légendes.
Oui, le Bureau des légendes, 5 saisons et bientôt, Sophie, une 6e tournée en Afrique centrée sur les relations entre la France et l'Afrique subsaharienne, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Alors le pays du tournage, on imagine bien que ce ne sera pas dans l'un de ces trois pays, mais il n'a pas du coup été choisi pour l'instant, ont déclaré les producteurs, ajoutant que l'essentiel pour eux est d'être plausible et crédible.
Lie to everyone. Pretend to be someone you're not.
Le Bureau des légendes, pour l'heure, fait l'objet d'un remake américain, The Agency, qui sera diffusé aux États-Unis à la fin du mois. Toujours aux États-Unis, la course aux Oscars commence, et pour la France, Elisabeth, c'est Emilia Pérez qui mène le jeu.
Manitas del Monte, es un cartel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer.
Oui, la comédie musicale de Jacques Audiard sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain multicouronné à Cannes par un prix de la meilleure actrice donné à l'ensemble du casting féminin. Eh bien, voilà, Emilia Pérez a été achetée par Netflix. Elle est disponible depuis 3 jours sur la plateforme. Et celle-ci compte bien la soumettre dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice.
Toujours à Hollywood, Tom Hanks a été fasciné et même, a-t-il dit, terrifié par ce que permet l'intelligence artificielle sur les tournages.
Voir son visage vieilli ou rajeuni de 20 ans en temps réel, c'est un peu une chimère, surtout pour un acteur. Mais elle est devenue réalité sur le tournage du nouveau Zemeckis, qui nous plonge sur plusieurs décennies dans l'intimité d'un couple. Donc le logiciel s'appelle Metaphysique Live. Il n'a rien de métaphysique, croyez-moi Sophie. En quelques nanosecondes, il peut, en analysant les millions d'images qui existent de nous sur Internet, nous faire revivre à 15 ans, 20 ans, voire même à 90. Donc c'est ce qui est arrivé à Tom Hanks et ça s'est passé, si je puis dire, en live pendant le tournage. Donc voilà, c'est inquiétant, c'est effrayant, comme le dit Tom Hanks, c'est l'intelligence artificielle et le règne des deepfakes qu'elle nous promet.
Maintenant, on part à Istanbul où, chose rare, un festival a été annulé pour cause de censure.
C'était début novembre quand les organisateurs du festival ont appris par les autorités locales qu'ils ne pourraient pas diffuser Queer, le nouveau film de Luca Guadagnino, dans lequel Daniel Craig joue un homosexuel toxicomane, donc sujet quasi tabou, pour le dire simplement, un sujet tabou en Turquie. Donc c'était le film d'ouverture et donc suite à cette censure, les organisateurs ont décidé d'annuler la tenue du festival. On rappelle que la marche des fiertés, la Gay Pride, est interdite en Turquie chaque année pour des raisons de sécurité et des personnes LGBT+ affirment être régulièrement victimes d'agressions.
Et pendant ce temps, une vague de censure s'abat sur l'Ouzbékistan.
Les autorités vont introduire, je cite, un examen moral sur le contenu des films, des chansons, de tous les contenus médiatiques au motif. Alors c'est toujours le même que brandissent les censeurs, de protéger la jeunesse et la mentalité nationale. Voilà, je précise que l'Ouzbékistan a encore chuté au classement mondial de la liberté de la presse. Il est désormais à la 148e position sur 180.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin. C'est Apolline Verlon qui a réalisé cette émission.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission spéciale enregistrée au Festival International d'Amiens, à l'occasion de l'hommage rendu à la réalisatrice sénégalaise Khady Silla. D'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.